Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans le petit prophète Michée, on dit petit parce que le livre est petit dans la Bible, mais c'est quand même un grand prophète devant Dieu. Il n'y a pas de petit prophète devant Dieu. Merci. Donc le prophète Michée est contemporain du prophète Ésaïe dans la Bible. Le contexte du peuple d'Israël à l'époque, eh bien, ils sont idolâtres, ils sont hypocrites. Ils servent de faux dieux en même temps qu'ils servent le vrai Dieu. Aussi, ils sont allés prendre des femmes parmi les peuples païens autour, ce que Dieu avait interdit. Donc, ce n'est pas une période très glorieuse pour Israël. Ils sont même sous le coup d'un jugement de Dieu, une déportation qui va venir. Et à travers Michée, comme à travers les autres prophètes finalement de l'Ancien Testament, eh bien, le Seigneur va plaider avec son peuple. Il va plaider pour que son peuple revienne à lui, pour que son peuple l'aime de tout son cœur, pour que son peuple fasse tomber les hypocrisies et tout ce qu'il y a autour, et qu'il se donne entièrement à l'Éternel, leur Dieu. Alors, Michée parle aussi de jugement, d'un jugement à venir, mais il parle aussi de gloire future. Et on connaît le passage le plus connu dans Michée, c'est Michée chapitre 5 et le verset 1. La prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ, il est dit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc cette prophétie, hein, sur le Seigneur Jésus qui naîtra, le Messie, qui naîtra à Bethléem. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ça va être le chapitre juste après le chapitre 5, et on va s'intéresser au chapitre 6. Et on va le lire, on va lire tout le chapitre 6, même si on va s'arrêter plus particulièrement sur les 8 premiers versets, mais afin d'avoir tout le contexte. Donc Michée chapitre 6, il est écrit: Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ses riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve, et tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le moût, et tu ne boiras pas de vin. On observe les coutumes d'Omri, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Ici, dès les deux premiers versets du chapitre 6, on voit quelque chose de solennel, de sérieux. Dieu va parler. Le grand Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, notre Dieu, va parler. Il va prononcer des paroles. Il va prononcer des paroles qui sont sévères, c'est vrai ici. Il est dit, hein, plaide devant les montagnes. Dieu prend la terre entière à témoin de ce qu'il va dire. C'est pas une petite chose. Il faut tendre l'oreille. Et j'imagine le peuple d'Israël qui entendait Michée leur prêcher ce message. Et il disait, voilà, écoutez ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes. Et là, il parle de montagnes et de collines. Et aucun doute que le peuple d'Israël a pensé à la fois où Dieu leur a parlé du haut d'une montagne, hein, le mont Sinaï. On a lu ce matin dans Hébreux 12 hein, qu'on ne sait pas, nous ne sommes pas approchés d'une montagne embrasée qu'on ne pouvait pas toucher, mais nous, on s'est approchés de la montagne céleste, hein, de la Jérusalem céleste, de Dieu, du Dieu vivant. Mais eux, aucun doute, ils devaient penser à ça. Ils devaient se rappeler. Alors, bien sûr, les contemporains d'Isaïe n'étaient pas au mont Sinaï, hein, c'est les descendants, mais ça les a marqués, ça a marqué le peuple d'Israël. Vous imaginez, ils étaient là, Dieu les a sortis, non seulement déjà d'Égypte, déjà il a ouvert la mer Rouge, ils sont passés, c'est quand même quelque chose. Et puis ils arrivent devant une montagne, un mont, et là ce mont, Dieu descend dessus, le tonnerre, la foudre tombe, le mont est embrasé, il y a de la fumée, il y a des ténèbres, et Dieu parle. Il parle d'une voix forte, il parle d'une voix puissante, tellement puissante, et il dit les 10 commandements hein, quand il parle d'une voix puissante. Il énonce les 10 commandements, tellement que le peuple a dit « Assez, on ne peut pas entendre. » Même Moïse, l'ami de Dieu, qui parlait face à face avec Dieu, même Moïse, on l'a lu tout à l'heure, était terrifié. Il était tremblant et épouvanté devant ce spectacle. Et là, le prophète Michée leur dit « Peuple de Dieu, Dieu vous parle, il a un procès contre vous. » Il a un procès contre vous. J'imagine que ça aurait dû les secouer, en tout cas. Ça aurait dû les secouer. Et il est dit ici, hein, verset 2, « Car l'Éternel a un procès avec son peuple. » Avec son peuple. Il n'est pas question des autres, il est question de nous. Il est question du peuple de Dieu. Dans le contexte, c'est Israël, et on peut l'appliquer à nous aujourd'hui. Dieu a un procès avec son peuple. Et c'est ma première question pour vous ce matin, pour nous. Est-ce que Dieu a un procès avec moi ? Est-ce que Dieu a un procès avec moi ce matin ? Et vous savez, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans se remettre en question. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut sans cesse qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on la lise et qu'on s'interroge dessus. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Qu'est-ce que Dieu veut reprendre dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Parce que le Seigneur veut nous éduquer. Il veut nous faire grandir en lui. Il veut qu'on comprenne des choses. Il veut nous purifier aussi, nous sanctifier, nous rendre plus parfaits, plus proches de lui. Et cette parole de Dieu que nous aimons et que nous voulons prêcher ce matin, eh bien, c'est un guide. Elle éclaire nos cœurs, elle éclaire nos consciences, elle éclaire ce qu'il y a au plus profond de nos âmes pour nous remettre en question. Et Dieu ici nous interpelle, est-ce que Dieu a un procès avec moi, contre moi ? Alors moi, je ne suis que là pour annoncer la parole de Dieu. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos cœurs. Je ne suis pas là pour vous juger. Simplement, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ici, Dieu nous interpelle. Et c'est entre Dieu et vous. Mais si Dieu a un procès contre vous, si Dieu a un procès contre moi, ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Parce que c'est le grand Dieu, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu parfait. C'est le Dieu merveilleux aussi qui nous a sauvés. Et ici, il prend la terre à témoin. Alors, quel est ce procès que Dieu avait envers son peuple d'Israël ? Et on va voir que finalement, à chaque point, quasiment, on rejoint un des 10 commandements, justement, que Dieu avait prononcé, que Dieu avait écrit, gravé dans des tables de pierre. La première chose que j'ai notée, c'est au verset 3. Dieu dit, « Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ?» Et la première chose ici, ça rejoint le premier commandement, vous savez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ici, ils se sont fatigués de Dieu. Ils se sont lassés de Dieu. Et vous savez, le peuple d'Israël, quand ils allaient adorer d'autres idoles, ils gardaient le vrai Dieu. Ils allaient toujours dans le temple adorer. Il y avait toujours les sacrifices, hein, ils continuaient à faire les sacrifices. Mais c'était, on va quand même voir les idoles. Et on va voir les idoles surtout. Et puis bon, on va quand même voir Dieu, parce que bon, comme ça, il ne sera pas trop fâché avec nous. Mais c'était aussi lassé de Dieu, fatigué de Dieu. Et c'est ma deuxième question pour vous ce matin. Est-ce que vous vous êtes lassé ou fatigué de Dieu ? Est-ce que vous faites les choses par habitude et vous vous êtes lassé de Dieu ? On a fait un camp cet été avec des jeunes, des ados. C'était une grande bénédiction. Et je discutais avec un des ados un moment, et il me disait que il avait été très étonné parce qu'il était tombé sur un album photo dans sa famille, et il avait vu ses parents qui chantaient des cantiques dans la rue et qui prêchaient, qui témoignaient dans la rue. Et il m'a dit, mais moi, mes parents, je les ai jamais vus comme ça. Enfin, il était très 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 surpris de voir cette photo. Et quand il en a parlé à ses parents, ils étaient un peu gênés. Et aujourd'hui, ses parents vont pas régulièrement à l'église. Et lui-même disait qu'il n'était pas encouragé parce que comme ses parents y vont pas, c'est dur pour lui. Et puis après, en discutant avec lui, il m'a dit, ah mais je me souviens d'une autre chose, c'est que quand j'étais petit, ils sont plusieurs frères. Il m'a dit, quand moi j'étais petit, on avait un culte familial à la maison. Donc on ouvrait ensemble la Bible et mon père nous expliquait, ou ma mère nous expliquait la Bible tous les soirs. Et il me dit, mais maintenant il n'y a plus, c'est terminé. Il me dit, ça fait longtemps même qu'il n'y a plus. Il réalisait la chose en fait, il est en train de la réaliser. Et il me disait que lui, il aimerait bien que ça reprenne. Donc c'est un ado, hein, il a 16 ans. Et le plus dramatique, c'est qu'il a un petit frère de dizaines d'années. Et lui, il n'a pas le droit au culte familial. Lui, il a eu le droit encore petit, il a encore eu ce privilège, mais. L'autre qui est plus petit, il n'y a pas le droit. Et en fait, ses parents se sont, ils le faisaient. Donc, c'est pas qu'ils l'ont jamais fait, hein, parce qu'il y en a qui, on l'a jamais fait, bah, on n'a pas été enseigné peut-être à le faire. Mais là, ils le faisaient. Ils ne le font plus. Ils chantaient dans la rue. Ils vont à peine à l'église. Ils se sont lassés, fatigués de Dieu, fatigués de Dieu. Et ici, Dieu, au verset 4 et 5, bien, il rappelle au peuple ce qu'il a fait pour lui. Il dit, mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Tu t'es lassé, fatigué de moi, mais moi je suis toujours là et rappelle-toi ce que j'ai fait. Ici, il dit, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. On sait que dans la parole de Dieu, l'Égypte correspond au monde, en fait, à notre vie passée, quand nous n'étions pas avec Dieu, quand nous n'étions pas encore convertis. C'est notre vie d'avant. Et il dit, mais rappelle-toi comment tu étais. Tu étais esclave du péché. Tu ne pouvais pas t'empêcher de pécher. Tu aimais ça et tu continuais. Et tu étais troublé dans ton âme, mais tu n'avais pas de solution. Il dit, mais rappelle-toi ce que j'ai fait. Je t'ai délivré de ça. J'ai cassé les chaînes de l'esclavage du péché. Je t'ai délivré d'Égypte. Je t'ai sorti. Et tu m'as oublié? Tu t'es fatigué de moi? Et il continue, il dit, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Il avait envoyé des conducteurs. Et tous dans nos vies, nous pouvons dire que Dieu, à un moment donné, n'a placé des conducteurs devant nous. Nous avons nos pasteurs, mais ça peut être des chrétiens que nous avons croisés dans la rue, qui nous ont un jour donné un traité, qui nous ont annoncé l'évangile. Dieu dit, mais rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai pas laissé comme ça, errant comme une brebis perdue. Je suis allé te chercher. J'ai envoyé des chrétiens, j'ai envoyé des personnes. J'ai mis des gens devant toi. Je t'ai guidé. J'ai pris soin de toi. Et tu m'as oublié? Tu t'es fatigué de moi? Et il continue, il dit, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Donc, Balak, roi de Moab, voulait détruire le peuple d'Israël. Il voulait faire la guerre. Il a appelé Balaam. Donc, il dit après, ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Il a appelé Balaam, un prophète. Pour qu'il maudisse, un prophète du pays, pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Et Dieu a empêché Balaam de maudire le peuple d'Israël, il n'a pas pu la prononcer. Au contraire, il a prononcé des bénédictions sur le peuple d'Israël. Il a dit, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas, Dieu parle à travers, là, je ne peux pas faire autrement, même si je voulais les maudire, je ne pourrais pas. Dieu les bénit. Et il dit, mais rappelle-toi, tu avais des ennemis qui ont voulu te faire la guerre, qui ont voulu te maudire, et je n'ai pas permis. Je t'ai protégé, je t'ai gardé, j'ai pris soin de toi, et tu t'es fatigué. M'a oublié. Il dit, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Et il dit, mais regarde autour de toi, regarde ta vie, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, regarde tous les bienfaits que j'ai mis devant toi, combien j'ai pris soin de toi. Et tu t'es fatigué, tu t'es lassé de moi, tu t'es lassé de moi. En quoi t'ai-je fatigué? Que t'ai-je fait? Réponds-moi. La deuxième chose, c'est au verset 10, il est dit, y a-t-il dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Alors, l'épha, c'est une unité de mesure pour les volumes, les quantités. Par exemple, pour la farine, hein, ils mesuraient avec des éphas. Et là, il est question d'arnaque, si on peut dire, hein, d'arnaque dans un commerce. Parce que quand on vend un litre, par exemple, on achète un litre de lait, ou 300 grammes, on achète 300 grammes de farine, voilà, c'est plus parlant. On achète 300 grammes de farine, eux, ils achetaient par exemple un épha de farine, admettons. Eh bien, s'ils achetaient un épha de farine, le marchand, son épha, il était plus petit. En fait, il n'avait pas un épha, il avait trois quarts d'épha, si vous voulez. Et il vendait ça pour un épha. Et donc, il dit, mais voilà, un épha trop petit, objet de malédiction. Donc, ça rejoint le commandement qui dit, tu ne voleras pas, hein, directement. C'est du vol. on vend pour arnaquer. Et bah, on peut se poser la question pour nous-mêmes, finalement, est-ce qu'on n'a pas volé quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas des choses chez nous, des objets, bien qui ne nous appartiennent pas, qui sont à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a emprunté un objet qu'on n'a jamais rendu? Parfois, c'est simplement des choses dans notre vie, pas forcément matérielles, mais qui n'ont rien à faire dans notre vie et qui sont pour nous un objet de malédiction, quelque chose qui pèse sur nous. Ça peut être aussi des dettes que nous avons qui ne sont pas réglées. Ça peut être plein de choses. Au verset 11, ça rejoint la même chose, il est dit « Est-on pur avec des balances fausses ?» Donc c'est la même idée, hein, des poids qui ne sont pas du bon poids pour arnaquer les gens. Avec de faux poids dans le sac, on retrouve l'escroquerie. Ici, c'est la fausseté aussi, l'idée d'être faux, d'être double. Et il nous faut prendre garde à nous, enfants de Dieu, aussi aux loups qui se déguisent, qui viennent dans les églises pour semer la zizanie, pour voler les brebis aussi, ou pour emmener dans des fausses doctrines, pour faire chuter. Et nous devons être vigilants à cela, la fausseté. Il y a un beau verset dans la parole de Dieu qui dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée du juste. Et je discutais avec le pasteur de Béziers une fois sur ce verset, et il me dit que lui, il avait remarqué une chose, c'est que quand il y avait quelqu'un qui venait dans l'église et qui était un méchant, qui venait pour faire du mal, eh bien, il ne résistait pas en général. Et il m'a dit, j'ai vu l'application de ce verset, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. C'est, au bout d'un moment, ça sort, ça ne peut pas rester caché. Mais à nous de prendre garde. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu, hein, quand le Seigneur Jésus était sur terre, combien il a repris les pharisiens qui s'enrichissaient sur le dos du peuple, hein, de ces pauvres malheureux qui étaient exploités. Prenons garde à nous. Au verset 12, nous avons « Les riches sont pleins de violence. » Pleins de violence, donc « Tu ne tueras pas. » Tu ne tueras pas. Et tuer, c'est pas forcément prendre un couteau et assassiner quelqu'un. Hein. Le Seigneur Jésus a dit que si on avait de la haine pour quelqu'un dans notre cœur, on était déjà meurtrier. On était déjà coupable devant Dieu. Le Seigneur Jésus a mis la barre haute, mais c'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est parfait, c'est notre grand Dieu. Et on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Dans nos paroles, dans nos pensées, il est facile aussi de tuer quelqu'un dans la réputation. C'est très facile. Mais il y a aussi une autre manière de tuer, c'est de ne pas annoncer l'évangile. Parce que les âmes sont perdues. Les âmes vont en enfer. Elles ne connaissent pas le Seigneur. Et nous, on connaît. On a la solution. On a le remède. Hein. On prend souvent l'exemple d'une maladie incurable dont nous, on aurait le remède et qu'on ne donnerait pas, mais c'est ça. Et quand il y a quelqu'un qui est devant nous et que Dieu nous donne une occasion d'annoncer l'évangile et que nous n'annonçons pas l'évangile, nous tuons cette personne. Et bien plus que la tuer, c'est terrible parce que c'est l'enfer pour l'éternité. L'enfer est plus terrible que même les mots qu'on pourrait employer pour le décrire. Et nous avons des multitudes de personnes à notre disposition chaque jour qui ne connaissent pas l'évangile. Ensuite, dans le même verset, à la suite, il est dit « Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » Le mensonge, tu ne mentiras pas, hein, tu ne porteras pas de faux témoignages. Il n'y a pas de mensonge, même par omission. Le mensonge par omission est un mensonge devant Dieu. Mais mensonge pour la bonne cause. Une fois, je discutais avec... c'était avec des témoins de Jéhovah, on discutait. On était à Perpignan pour une expo Bible, justement. C'était en septembre. Et... il y avait deux témoins de Jéhovah, on discutait, on parlait du mensonge, et je dis oui, mais enfin, on a forcément tous menti au moins une fois dans la vie, je veux dire, c'est pas, on est coupable. Et elles m'ont dit, elles nous ont dit, on peut mentir pour la bonne cause quand même, ça c'est pas grave. C'est pas grave, va dire ça à Dieu, c'est pas grave, va t'approcher de la montagne qui fume, qui tremble avec les éclairs et Dieu qui parle, et va dire c'est pas grave, moi j'y vais pas. C'est grave aux yeux de Dieu. Un mensonge est un mensonge. Au verset 12 encore. Ah oui, j'ai lu le verset. En fait, c'est « Ses habitants profèrent le mensonge pour mentir, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » Pardon, pour la tromperie et l'hypocrisie. Et on peut rattacher ça au fait qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain pour la tromperie. Parce qu'il est facile d'avoir une façade et de parler de Dieu comme ça, et puis derrière de tromper, hein, de d'avoir des paroles doubles, ou d'avoir un visage double aussi, d'être hypocrite. C'est toujours au camp cet été. Je donnais les cours pour les ados, et pendant un cours, je ne sais plus, on parlait de la sainteté de Dieu, on parlait de plusieurs sujets, et notamment du fait que c'était facile de venir à l'église le dimanche, de mettre un masque, et de chanter des beaux cantiques, « Oui Seigneur, prends mon âme, Seigneur, prends toute ma vie, elle est toute à toi, Seigneur, je t'appartiens, entre tes mains, j'abandonne tout. » Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Dans la vie de tous les jours, ben, ce n'est pas vrai. Et c'est très intéressant, puisqu'il y a un jeune qui m'a coupé, qui m'a dit « Mais tu es en train de dire que je suis un hypocrite tous les dimanches matins. » Et je lui ai dit « Ben, c'est exactement là que je voulais vous emmener, c'est bien que tu t'en rendes compte. » Il m'a dit « Non, mais c'est une réalité, du coup, je suis un hypocrite tous les dimanches matins quand je viens. » Parce que je chante les cantiques, mais dans la semaine, ben, ma vie n'est pas avec le Seigneur. Ou pas forcément, en tout cas. Et donc c'était très intéressant. Et c'est valable pour un ado, mais c'est valable finalement pour nous, pour les parents aussi. C'est valable pour n'importe qui. Est-ce qu'on est double? Est-ce qu'on est hypocrite avec Dieu? Un masque le dimanche matin, ou quand on est en présence de chrétiens. Et puis quand il n'y a plus de chrétiens, ben, c'est pas grave. Hein, j'enlève mon masque du dimanche et puis je fais ma vie. Mais attendez, mais c'est pas possible. Approchez-vous encore une fois de cette montagne sainte comme ça, c'est pas possible. Alors il est vrai qu'on s'est approché d'une montagne de grâce, hein, du Seigneur Jésus-Christ, qui fait grâce et qui pardonne. Il est écrit dans la parole de Dieu, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi avec notre Dieu. C'est quand même le grand Dieu, le Dieu saint, le Dieu créateur. Et on ne peut pas se permettre de jouer comme ça avec Dieu, de dire oui le dimanche matin, de chanter les beaux cantiques, et puis de faire ce qu'on veut dans la semaine, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est écrit en Ésaïe 29, verset 13, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Que le Seigneur ne puisse pas dire ça de nous. Au verset 16, il est dit, « On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. » C'était deux rois qui avaient gouverné sur le peuple d'Israël, deux mauvais rois. Omri avait dressé des hauts lieux pour les idoles et avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Il est dit pire que ceux qui étaient avant lui. Et Akab, qui vient après Omri, a fait la même chose. Il est dit pire que ceux qui étaient avant lui, donc encore pire qu'Omri. Et pour rappel, Akab, c'est celui qui a épousé Jézabel. Donc la fameuse Jézabel, hein, qui était en colère contre Dieu, d'une violence, qui voulait tuer le prophète Élie. Ici, on rejoint directement le commandement « Tu ne feras pas d'image taillée, des choses d'en haut, pour te prosterner. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car l'Éternel est un Dieu jaloux », dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas valable pour les païens, c'est valable pour nous. On est parfois idolâtres, non pas... Alors c'est sûr qu'on ne se prosterne plus devant des statues, en tout cas, pas dans nos pays, en tout cas, mais dans d'autres pays, c'est encore fait. Mais là, ça peut être une idole. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend dans notre cœur la place qui revient à Dieu. Et vous savez, on entend souvent dire que Dieu veut la première place. Ben, je vais vous dire quelque chose, Dieu ne veut pas la première place, il veut toute la place. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Ce n'est pas la première place, puis après tu fais ce que tu veux. Non, non, Dieu veut toute la place. Toute la place. Tout est pour lui. Il n'y a rien pour personne d'autre. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et à certaines périodes, vous savez, même les sacrificateurs qui rentraient dans ce tabernacle pour faire le service de Dieu, dans leur propre maison, dans leur chambre, ils avaient des idoles cachées. Ils avaient des idoles cachées. Eux, les sacrificateurs de Dieu, du Dieu vivant, ils avaient des idoles. Et parfois, dans notre cœur, on a aussi des choses qui ne vont pas, qui prennent la place de Dieu. Et nous devons nous mettre en règle avec le Seigneur. Verset 16 encore, il est dit « Et vous marchez d'après leurs conseils, d'après le conseil des méchants. » Alors ça m'a fait penser tout de suite au psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » justement. J'ai rattaché ce qu'il faisait là, cette erreur, au commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Pourquoi ? Parce que dans le cas où les parents sont chrétiens et marchent avec le Seigneur, souvent, quand on n'écoute pas les conseils de nos parents, mais plutôt les conseils de nos amis, qui ne sont pas toujours des bons amis, eh bien effectivement, on marche d'après le conseil des méchants, alors qu'on devrait honorer notre père et notre mère et les écouter. Bien sûr, il y a certains parents, on ne peut pas parce qu'ils ne vivent pas comme il faut et ils ne sont pas de bons conseils. Je ne peux pas dire que tous les parents sont de bons conseils, c'est faux, il y a des parents qui ne sont pas de bons conseils. Mais quand on a le privilège d'avoir des parents qui sont de bons conseils, alors on doit honorer nos parents même s'ils ne sont pas de bons conseils, mais on doit encore plus suivre leurs conseils quand ils sont de bons conseils. Et je peux témoigner que mon père, par exemple, n'est pas converti, il n'est pas au Seigneur, mais il est de bons conseils. Je peux dire qu'à chaque fois que mon père me donnait un conseil, c'était un bon conseil. Et voilà, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce qu'il me dit, tant que c'est en accord avec la parole de Dieu, bien sûr. Il y a 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit « Ne vous y trompez pas », on connaît ce verset, hein, « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Corrompent les bonnes mœurs. Les messages que Dieu a pour nous sont parfois sévères, c'est vrai, mais ils sont toujours imprégnés d'amour. Parce que notre Dieu est amour, dit la parole de Dieu. Et le procès que lance l'Éternel à son peuple ici, à son peuple, le peuple d'Israël, et à nous par application, bien ce procès, jamais, jamais ce procès n'a pour but la perdition. Jamais. Toujours ce procès a pour but notre salut, notre sanctification. Parce que Dieu a formé sur nous des projets de paix, dit la Bible, et non de malheur. On le sait. Donc si Dieu a un procès contre nous, ce n'est pas pour la perdition, mais c'est pour notre salut. Il est écrit ici, au verset 2, il veut plaider avec Israël. Dieu plaide. Il ne juge pas, il écrase pas. Il plaide. Il plaide avec son peuple. Notre Dieu est à la fois notre juge et notre avocat. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est l'avocat qui est auprès du Père. Et vous savez, Jésus-Christ, quand on se repent, eh bien, il est là pour dire non, c'est terminé. Il a demandé pardon. C'est terminé. Plus de condamnation, plus rien. Il est à moi, il m'appartient, c'est l'enfant de Dieu, il est notre avocat, il nous défend, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Dieu nous éduque et veut nous amener à cette prise de conscience, à cette remise en question qui est salutaire pour nos âmes, salutaire pour notre vie chrétienne aussi. Parce que si on ne se remet pas en question soi-même, eh bien, il n'y a pas de vie chrétienne possible. On ne peut pas avancer avec le Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors ici, le peuple avait un problème. Au verset 6, il a un problème. Il est dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ?» Et verset 7, « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ?» Là, il y a un problème pour celui qui est sous la loi. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël avait péché volontairement. Il connaissait Dieu. Il savait ce qu'il fallait faire. Et ils ne l'ont pas fait. Volontairement. Et si vous lisez le Lévitique, vous vous rendez compte d'une chose. Il n'y a pas de sacrifice pour les péchés volontaires. Il y a des sacrifices pour les péchés involontaires. Mais il n'y en a pas pour les péchés volontaires. Ils ont un problème. Ils ont péché volontairement contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont offrir des sacrifices ? Ils peuvent en offrir à l'appel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il est écrit dans Hébreux 10, 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse, sous-entendu volontairement, puisque pour les autres il y avait des sacrifices, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Il meurt sans miséricorde. Ils ont un problème, un gros problème. Que faire ? Et Dieu, au verset 8, leur dit « Mais on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que je demande de toi. Bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu leur dit, mais je t'avais prévenu, tu savais ce qu'il fallait faire, tu peux pas dire que tu n'étais pas au courant. Regarde, tu devais pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec moi. Tu le savais, tu le savais. Et Dieu est en train de leur dire, mais c'est pas les sacrifices, c'est pas ça, il y a autre chose. Et en psaume 51, David dit, mais si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Il y a un deuxième problème. Il y avait un deuxième problème pour celui qui était sous cette loi, parce qu'il devait faire ça. Il devait pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Le problème, c'est que en Jérémie 17, verset 9, il est dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Et méchant. Alors, que faire avec un cœur pareil? Comment peut-on pratiquer la justice avec un cœur tortueux et méchant par-dessus tout? Comment peut-on marcher humblement et aimer la miséricorde avec un cœur tortueux et méchant par-dessus tout? Comment c'est possible? Eh bien, c'est là où nous avons l'excellence de la nouvelle alliance, l'excellence de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et on a, je l'aperçois à travers les versets 17 et 18, mais du chapitre 7 de Michée. 18 et 19. Il est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et avant de mettre sous ses pieds toutes nos iniquités, il les a mis sur le Seigneur Jésus-Christ à la croix, afin qu'il paye pour nous ce que nous aurions dû subir, le châtiment, la colère de Dieu. Il l'a pris sur lui. Et Jésus-Christ, il est venu bien pour réaliser ce dont nous étions incapables, ce verset 8. S'il y en a un qui a pratiqué la justice, c'est le Seigneur Jésus. Il a pratiqué une justice parfaite quand il était sur terre, à tel point qu'il a même mis en confusion tous ceux qui lui posaient des questions. Hein. On se rappelle quand il a dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça, c'est pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste, faire ce qui est droit. Ou quand il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à cette femme adultère qui était condamnée par ces religieux juifs confondus. Mais c'est la justice, c'est la justice. Il a pratiqué une justice parfaite. Et il est dit, dans ce verset, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et qui mieux que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler la volonté de Dieu, la volonté du Père et le Père lui-même? Personne. Il est celui qui nous l'a révélé. Il est dit, il le dit lui-même. Il dit « La volonté de mon Père » donc voilà. Si vous cherchez la volonté de Dieu, elle est écrite dans la Bible. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis il a révélé Dieu lui-même, puisqu'il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc si il suffit de lire les évangiles, de voir la vie du Seigneur Jésus, et nous découvrons Dieu, nous découvrons le Père. Ce grand Dieu qui a parlé du haut d'une montagne, eh bien il s'est fait chair. Il est venu en Jésus-Christ et il nous a révélé la volonté de Dieu, il nous a révélé Dieu. Qui mieux que le Seigneur Jésus a aimé la miséricorde, hein? Combien de fois quand il était sur terre, il fut ému de compassion pour ceux qui l'entouraient. Il a pleuré même, il pleurait sur le peuple, il a pleuré sur Lazare qui était mort et sur ceux qui étaient autour à pleurer Lazare. Quand il croisait un cortège où il y avait un cortège funéraire hein, où un jeune homme était mort, où quelqu'un était mort, et puis tout le monde pleurait, il était ému de compassion, il venait ressusciter la personne. Qui a aimé la miséricorde plus que notre Seigneur Jésus? Et il a aimé la miséricorde au point même de se donner sur cette croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour effacer nos péchés. Qui mieux que le Seigneur Jésus a marché humblement? Qui mieux que le Seigneur Jésus a marché humblement sur cette terre? Personne. Vous savez, c'est un mystère incroyable de comprendre ça, d'essayer de comprendre ça. Ça nous dépasse que le Seigneur Jésus, qui était Dieu de toute éternité, qui est notre Créateur, qui est la parole de Dieu, qui était présent avec Moïse sur cette montagne quand elle était embrasée, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, le Seigneur Jésus était là. Ce Dieu-là est venu en Jésus-Christ. Il est né comme un petit bébé dans une étable pour nous sauver. Quelle humilité! Par amour pour nous, ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a marché humblement. Il n'a jamais abusé de son pouvoir. Il a même lavé les pieds de ses disciples, qui étaient des créatures. Ces créatures, il leur a lavé les pieds, vous imaginez? Et puis il a marché humblement jusqu'à la croix. Et puis pareil, qui mieux que le Seigneur Jésus a marché avec Dieu? À chaque instant, il était avec Dieu. Il était en communion constante avec Dieu. Il est vrai qu'il prenait des moments pour s'éloigner, en tout cas il essayait de s'éloigner pour prier, mais les foules le rattrapaient sans cesse. Mais il était tout le temps en contact avec Dieu. Il priait sans cesse, toujours en communion. Même parfois il priait, c'était pas pour lui, il l'a dit, hein, quand Lazare est mort et qu'il a prié pour la résurrection de Lazare, il a dit « Mais Seigneur, je prie pas pour moi, Dieu. Je sais que tu m'exauces, je sais que tu es avec moi, je prie pour eux, pour qu'ils voient ta gloire. » Mais il était constamment en contact avec Dieu. Et vous savez, les pharisiens, ils le savaient. Ils savaient que Jésus était Dieu. Ils savaient qu'il était le Messie. C'est même marqué dans la parole de Dieu. Parce que Nicodème, quand il est venu voir Jésus de nuit, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Rabbi ». Donc il faisait partie des pharisiens, il était un des pharisiens. Il a dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il le savait. Il le savait très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une excellence, une alliance excellente, une bonne nouvelle. Parce que non seulement le Seigneur Jésus, il a accompli cela à notre place, mais il a fait plus que ça. Il est allé plus loin. Parce qu'il a arraché de notre corps, il a arraché ce cœur de pierre et il nous a donné un cœur de chair. Ce cœur qui était tortueux et méchant, il l'a arraché pour nous donner un cœur pour l'aimer. Il est allé plus loin, il a même gravé ses lois dans nos cœurs, dit la parole de Dieu. Vous rendez compte ? Il les a plus gravées sur des tables de pierre menaçantes, prêtes à nous tomber dessus. Il les a gravées dans notre cœur, afin qu'on puisse les vivre. Et il nous a donné surtout son esprit, qui nous aide à les vivre, sans lequel nous serions incapables. Et lui vivant en nous, Christ en nous, eh bien nous sommes rendus capables d'appliquer dans nos vies ce verset 8. On est rendus capables de pratiquer la justice, c'est-à-dire, pour commencer, de rendre à Dieu ce qui lui est dû. La gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, parce qu'il est notre Dieu. Il nous a rendus capables, justement, de pratiquer la justice et aussi de l'enseigner à nos enfants, d'enseigner qui est ce grand Dieu, ce qu'il a fait pour nous, qu'il nous a aimés, qu'il nous a sauvés, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu aussi, parce qu'il y a une crainte respectueuse de Dieu à avoir. On ne fait pas n'importe quoi. Et on se réunit ce matin pour adorer Dieu. Il est présent, il est là. Et on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est notre Dieu et qu'il est présent et qu'il nous aime. Et on doit enseigner ces choses à nos enfants. On doit être juste dans nos rapports les uns avec les autres. Et c'est possible par l'Esprit que Dieu nous a donné, parce qu'il l'a mis dans nos cœurs. On est rendu capable d'aimer la miséricorde, d'aimer les uns les autres, d'être rempli de compassion, de pardonner et de se pardonner. On est rendu capable de ces choses. On est rendu capable de nous secourir aussi. On est rendu capable de marcher humblement avec Dieu. Le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples. On est rendu capable de se laver les pieds les uns des autres, de se supporter, de s'aider, d'être serviteurs les uns les autres, de se servir. On est rendu capable, chose extraordinaire, on est rendu capable de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Parce que le chemin, il est tracé, c'est Jésus-Christ. On le voit quand on lit les évangiles. Le Nouveau Testament, le chemin, c'est Christ. On n'a qu'à marcher dans ses pas. Ils sont déjà tracés. C'est devant nous. On n'a qu'à suivre le Maître. Si Dieu a un procès aujourd'hui avec nous, eh bien, on n'a plus d'excuses à formuler. On doit juste se repentir, demander pardon, croire et vivre. Vivre cette vie que Dieu nous a donnée. Cette vie éternelle qui commence aujourd'hui. On n'a pas à attendre d'être dans l'éternité pour la vivre. Elle est déjà présente. Et ici, eh bien, s'arrête la part que Dieu m'a donnée ce matin. Bien vous délivrer son message, vous avertir, vous encourager, intercéder pour vous aussi. Et je voudrais vous laisser ces deux questions. La première question, et ce n'est pas une petite question, Dieu a-t-il un procès avec moi ? Dieu a-t-il un procès avec moi ? La deuxième question, c'est est-ce que je me suis fatigué ou lassé de Dieu ? Est-ce que je me suis fatigué de Dieu ? Et la dernière question, c'est qu'allez-vous faire maintenant si c'est le cas ? Si Dieu a touché votre cœur et la parole de Dieu est vivante aujourd'hui encore, qu'allez-vous faire ? Il est écrit en hébreu encore, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la croix de Jésus-Christ, une seule. C'est demander pardon, se repentir, croire et vivre. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, vous avez entendu ce message. Mais ce message qui est pour le peuple de Dieu, mais vous n'en faites pas partie. Vous savez que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alors, je dois vous le dire, mais vous ne posez même pas la question. Dieu a un procès contre vous, c'est sûr. Sûr et certain. Parce que vous avez accumulé des péchés durant votre vie qui ne sont pas réglés devant Dieu. Et là, il y a un problème. Un gros problème pour vous. Un problème de taille. Parce que ce n'est pas une petite chose, c'est une condamnation éternelle qui repose sur vous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Condamné pour l'éternité, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que vous l'avez offensé, tout simplement. Parce que vous n'avez pas tenu compte de sa voix, de ses commandements. Et si c'est le cas ce matin, la solution elle est la même, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il vous faut comprendre et accepter dans votre cœur, pour vous-même, que Jésus, quand il était sur cette croix, c'est pas parce qu'on l'a pris au dépourvu et qu'il a été cloué. C'est pas parce que c'est un malfaiteur, c'est pas une erreur judiciaire. C'est volontaire. Il l'a voulu. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il a payé pour vous. Parce qu'il a dit non. Je veux pas qu'il aille en enfer pour l'éternité. Je vais prendre le châtiment sur moi. Moi qui suis juste et parfait, je vais prendre ce châtiment. Comme un paratonnerre, la foudre, au lieu de tomber sur votre tête, a été détournée sur la croix de Golgotha, sur Jésus-Christ, parce qu'il vous a aimé. Et maintenant, il dit simplement, il suffit de croire que j'ai payé pour vous, et de demander pardon. Et cette vie éternelle vous est offerte, et vous ferez partie du peuple de Dieu. En tout cas, si vous êtes encore là ce matin, et pas encore en enfer, c'est parce que Dieu vous laisse encore une chance aujourd'hui. Dieu use de patience, parce qu'il veut que vous soyez sauvés. Nous allons nous incliner dans la prière. Et pendant que nous sommes en attitude de prière, on est devant Dieu. On n'est pas devant des hommes. On est devant le Dieu puissant, celui qui nous a aimés, celui qui nous a créés. Et je propose qu'on s'examine chacun devant Dieu, qu'on laisse le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, examiner les profondeurs de notre cœur, de notre conscience, et de nous poser ces questions. Seigneur, est-ce que tu as un procès contre moi? Est-ce que je me suis lassé ou fatigué de toi? Et puis qu'on se laisse guider au pied de la croix, afin de confesser au Seigneur Jésus, eh bien, nos tiédeurs, nos manquements, nos péchés. Parce que nous savons que Jésus-Christ est notre avocat, qu'il plaide en notre faveur, qu'il nous aime, et que son sang a effacé tous nos péchés.